Merci d'écouter RFI, les 7h à Paris, 9h à Mamoudzou.
RFI Matin.
Et tout de suite, le journal présenté par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Des dizaines de mesures annoncées pour tenter de répondre aux milliers de préoccupations des Mahorais après sa visite d'une journée à Mayotte. Le Premier ministre français a détaillé son plan pour reconstruire l'archipel balayé par le cyclone Chido. Nous serons sur place dans ce journal où les annonces de François Bayrou sont, semble-t-il, jugées insuffisantes. 2024 se termine et les Guinéens vont passer l'année sans que la transition militaire ne prenne fin, comme c'était initialement prévu. L'opposition prévient, elle ne reconnaîtra plus les autorités à partir de minuit et elle appelle à manifester lundi prochain à Conakry. Le nouvel an, eux, ils le passeront dans les rues de Tbilissi. Manifestation des opposants pro-européens en Géorgie pour terminer une année marquée par des semaines de mobilisation contre le parti pro-russe au pouvoir. Le Premier ministre français de passage à La Réunion après sa visite d'une journée à Mayotte. À La Réunion, d'où est partie l'aide d'urgence pour Mayotte. Deux semaines après le passage du cyclone Chido, François Bayrou a détaillé hier le plan du gouvernement pour reconstruire l'archipel. Il promet notamment un retour de l'électricité dans tous les foyers d'ici la fin du mois de janvier et confirme la volonté d'interdire la reconstruction des bidonvilles. Le Premier ministre qui tente avec ce plan de montrer l'implication de son gouvernement avec aussi Raphaël Delvolvé, une loi d'urgence.
Dès vendredi, pour le premier Conseil des ministres de l'année, la loi d'urgence sera présentée et transmise au Parlement dans les deux semaines. Ce texte spécial annoncé par le président Macron lors de sa venue à Mayotte permet de s'exonérer des contraintes administratives pour lancer des chantiers, comme ce fut le cas pour Notre-Dame, reconstruite en 5 ans, un modèle dont le Premier ministre s'inspire.
Un établissement public de refondation de Mayotte sur le modèle de Notre-Dame sera décidé le 3 janvier, donnant toute leur place aux élus.
Cette fois, le délai est bien plus court, 2 ans, et le chantier pharaonique. Après la loi d'urgence, en viendra une autre, une loi de programmation présentée dans les 3 mois et devant s'attaquer aux problèmes persistants de Mayotte, l'accès à l'eau, l'immigration, le recensement de la population ou encore les bidonvilles.
Ce plan Mayotte est une manière concrète de répondre aux préoccupations.
Et François Bayrou de rappeler également qu'il a nommé un poids lourd, Manuel Valls, ministre des Outre-mer.
C'est la première fois dans l'histoire de la République que département ministériel Outre-mer a été placé aussi haut dans la composition du gouvernement, confié à un ministre d'État.
Des garanties et une ambition comme pour afficher un sincère intérêt pour Mayotte, dont beaucoup ont douté après des polémiques à la suite du passage du cyclone.
Et puis concernant la rentrée scolaire prévue le 13 janvier, elle sera adaptée en fonction des établissements, selon le Premier ministre français. Des tentes écoles seront montées dès cette semaine. Et François Bayrou assure qu'une scolarisation temporaire dans l'Hexagone sera possible pour les Mahorais qui le souhaitent. Alors comment toutes ces annonces ont-elles été accueillies sur place? Lola Fourmi, vous êtes à Mayotte pour RFI. Et visiblement, les Mahorais n'ont pas vraiment été convaincus.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, ce matin encore, une grande partie des Mahorais n'ont pas eu connaissance des annonces et pour cause, ils sont très nombreux à n'avoir ni électricité ni réseau pour s'informer. Ensuite, à la sortie du conseil départemental hier, après la présentation du plan Mayotte debout, plusieurs élus sont sortis en colère. Loi de programmation, encore, on continue et rien de concret, s'énervait l'un d'entre eux. Plus véhémente encore, les femmes du collectif des citoyens de Mayotte ont hurlé sur les officiels leur colère de n'avoir pas été saluées, de ne pas avoir été écoutées. L'une d'entre elles me le disait, on en a marre de mendier notre francité. À un moment, on va arrêter de le faire et là, il ne faudra pas s'étonner. Une responsable économique l'admet aussi, Mayotte n'est toujours pas, même après cet événement majeur, considéré comme l'une des pires catastrophes du territoire français, traité comme tel. En chemin pour l'aéroport, Amina, infirmière libérale, résume ainsi: si on attend que ça vienne d'en haut, c'est le meilleur moyen pour qu'il ne se passe rien. Elle, qui a hébergé ses patients pendant le cyclone et a été logée par eux après les dégâts, l'illustre bien. Aujourd'hui, ce qui tient Mayotte, c'est la solidarité entre ses habitants.
Lola Fourmi depuis Mayotte. Pour RFI, la situation sur l'archipel qui devrait être évoquée ce soir par Emmanuel Macron. Le président adressera ses vœux aux Français à l'issue d'une année 2024 marquée aussi par sa volonté de dissoudre l'Assemblée nationale en juin dernier.
Et la situation à Mayotte, on en reparle dans une dizaine de minutes avec Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur. De retour de l'archipel français. RFI, à 6h05 à Conakry, en Guinée, la transition militaire ne prendra pas fin ce mardi 31 décembre. décembre.
Initialement, c'est ce soir, à minuit, que devait s'opérer le retour à l'ordre constitutionnel. Comme le général Mamadi Doumbouya et la junte militaire s'y étaient engagés avec la CDAO, finalement, le gouvernement confirme que la date butoir ne sera pas tenue et aucune nouvelle échéance n'a été annoncée. La plateforme des forces vives de Guinée, qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile, annonce qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités transitoires dès minuit et appelle à manifester à Conakry lundi prochain. Retour sur la situation avec Sidi Yansané.
Peu après sa nomination en mars dernier, le Premier ministre Baouri annonçait sur RFI que la durée de la transition dépendait des actions sur le terrain, avant de souligner que 2025 était une bonne période pour couronner l'ensemble du processus. Mais alors que s'ouvre la nouvelle année, aucune des 10 étapes majeures du chronogramme de la transition ne sont achevées. Selon le député, le recensement administratif à vocation d'état civil, toujours en cours, et l'élaboration de la nouvelle constitution, bloquée au stade d'avant-projet depuis 3 mois, et ce malgré l'engagement du président de transition Mamadi Doumbouya de tenir le référendum avant 2025. Cette année, à la veille du dernier sommet de l'OIF, le ministre des Affaires étrangères Maurice Nda Kouyaté avait assuré au Conseil permanent de la francophonie que toutes les élections en Guinée se tiendraient dans l'année qui commence, mais aucune date n'a été précisée, alors que les partis d'opposition et le mouvement citoyen FNDC annoncent une série de manifestations à Conakry à partir de lundi prochain.
Sidi Yansané. En Corée du Sud, la justice émet un mandat d'arrêt contre Yoon Suk-yeol, le président déchu qui a jusqu'à présent refusé de comparaître devant les enquêteurs qui veulent l'interroger sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Son avocat estime que ce mandat d'arrêt est illégal. Ils vont passer le réveillon du nouvel an devant le Parlement géorgien à Tbilissi. Nouveau rassemblement ce soir des opposants au parti pro-russe au pouvoir alors que le nouveau président Mireïl Kavelashvili a été investi. La présidente sortante de Salomé Zourabichvili sera aux côtés des manifestants. Déjà 2 mois de mobilisation depuis la victoire contestée aux élections législatives du parti Rêve géorgien. 2 mois qui pèsent aussi sur l'économie du pays et en particulier sur le tourisme. Reportage de l'envoyé spécial de RFI Julien Chavan avec Irma Inaridze.
Mereko Gobeladze nous accueille dans son restaurant de Tbilissi. Dans l'assiette, elle propose une cuisine géorgienne revisitée, mais en salle, la plupart des tables sont inoccupées.
Avec ce qui se passe en ce moment, on lutte pour survivre.
La crise politique et les positions anti-occidentales du pouvoir font fuir les touristes étrangers.
En temps normal, on devrait être plein pendant les fêtes, mais cette année, on a 70% de clients en moins.
Mérico arrive encore à payer les employés de ces 3 restaurants, mais pour combien de temps? Car c'est tout le secteur vital pour la Géorgie qui est menacé. Tamouna Tandashvili travaille pour les entreprises du tourisme.
En 2 semaines, près de 1 700 000 euros ont été perdus. Les annulations pour l'année prochaine sont passées de 30 à 85%.
Les investisseurs et les partenaires, eux aussi, prennent le large. Ivatch Konya est député de l'opposition. Il représente aussi des PME de la distribution.
Une période difficile nous attend parce qu'on n'aura plus les aides occidentales que les pays recevaient jusqu'à présent. Ça représente 1 milliard d'euros. C'est indispensable pour la stabilité du pays et celle de notre monnaie.
Plus de 600 entreprises, des grands groupes comme McDo ou Spar, ont déjà pris position pour appeler à de nouvelles élections. Julien Chavan, Irma Inaridze, Tbilissi, RFI.
2 personnes tuées dans la bande de Gaza dimanche lors du pillage d'un convoi du programme alimentaire mondial.
Le PAM qui assure que presque tous les acheminements d'aide humanitaire engendrent des violences et des pillages depuis 2 semaines. La situation dans l'enclave palestinienne qui se dégrade aussi à cause de la météo. Après plus d'un an d'offensive israélienne, les températures tournent autour des 10 degrés et les pluies sont abondantes. Caroline Bedos est responsable du pôle Moyen-Orient chez Médecins du Monde.
Mais en fait, les conditions de vie sont déjà épouvantables dans des abris de fortune. Il faut imaginer des tentes qui, ces jours-ci, sont balayées par la pluie, par le froid, avec très peu de nourriture qui rentre dans la bande de Gaza, peu de couverture, pas de chauffage, évidemment. Il y a les tentes qui sont inondées et c'est extrêmement humide et donc propice aux infections et à la propagation des maladies. Donc nous, ce qu'on voit, c'est une augmentation des consultations pour des maladies respiratoires et une dégradation de la santé des populations. On a effectivement pu constater aussi des morts de froid, c'est ce que rapportent les autorités de Gaza, qui mentionnent 7 morts, dont 6 enfants.
Et le comité international de la Croix-Rouge affirme en plus que le système sanitaire dans le nord de la bande de Gaza est anéanti et que les hôpitaux sont complètement inopérants. Les autorités surnomment cet afflux massif de drogue le tsunami blanc. En Europe, les saisies de cocaïne en provenance d'Amérique latine ont explosé cette année. Un signe d'un marché florissant, mais surtout les autorités constatent que les méthodes utilisées par les narcotrafiquants sont de plus en plus variées, ce qui rend très difficile, car le tamorteo, la lutte contre les stupéfiants.
En avion ou à la voile, dans des vraquiers ou des semi-rigides, planqués dans des cargaisons de bananes ou largués en mer dans des pochons hermétiques, la cocaïne voyage dans des quantités records. En Espagne, ce lundi, la police a annoncé avoir intercepté sa plus grosse cargaison de l'année, 7 tonnes de cocaïne stockées dans une ferme au sud de Séville, dans des conteneurs enterrés sous terre. Hier toujours, le Portugal a saisi 3,5 tonnes de cocaïne dans les cales d'un cargo qui assure le transport régulier de fruits entre l'Amérique latine et le continent européen. Les autorités ont admis que, vu la quantité de palettes de fruits transportées par le navire, la drogue n'aurait jamais été détectée sans un examen long et minutieux. En France, 50 tonnes de poudre blanche ont été saisies cette année. C'est plus du double de l'an dernier. 2/3 des opérations ont eu lieu en haute mer, aux Antilles et en Guyane pour tenter d'endiguer le flux au plus près des pays producteurs. Mais dernièrement, une nouvelle tendance inquiète. Le démantèlement de plusieurs laboratoires de transformation au Benelux ou en Espagne laisse penser que la pâte de coca est envoyée à l'état brut pour être ensuite traitée chimiquement sur le sol européen où la cocaïne est consommée.
La précision de Carlotta Morte.
RFI 7h11 à Paris. On parlait hier de la très bonne année des films français. Ce matin, on va revenir sur le succès d'une série française en 2024.
Oui, une série animée qui met en scène le journal intime de Samuel, jeune garçon de 10 ans. Les 21 épisodes diffusés dès le mois de mars sur la plateforme internet de la chaîne Arte et ses réseaux sociaux ont cumulé 18 millions de vues. Un succès tel que cette série est désormais diffusée à la télévision sur Arte jusqu'à la mi-janvier. Sophie Torlotin a rencontré la créatrice de la série Émilie Tronche.
Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème.
À l'origine, Émilie Tronche imagine le personnage de Samuel à son image, elle qui avait 10 ans en 2006.
Il grandit dans la même ville où moi j'ai grandi, il va dans la même école, le même collège, donc j'ai construit son univers à partir de mes souvenirs.
Elle lui prête même sa voix.
Ouais, je fais aussi la voix des personnages, donc un projet très auto-centré finalement.
Et le premier épisode, elle le poste sans arrière-pensée sur ses réseaux sociaux.
J'essaye d'écrire à hauteur d'enfant, je pensais même pas en faire une série, rien du tout. C'est vrai qu'à la base c'était vraiment pour moi et mes proches.
Liké et reposté par les internautes, cet épisode tape dans l'œil des responsables de la chaîne Arte, qui diffuse d'abord les 21 épisodes courts sur Internet. Le succès est immédiat et général. Ce qui plaît, c'est cette représentation sans mièvrerie d'un enfant de 10 ans, de ses joies et de ses peines, mais aussi ce trait noir sur fond blanc, faussement simple.
Au début, je voulais dessiner sans me juger. Tous les dessins que je trouvais moches, je les gardais. Je voulais qu'il y ait ce bouillonnement qu'il y a quand on gratte sur son journal intime, qu'on écrit et qu'on jette ses pensées. Je voulais le retrouver dans mon dessin. Et ce côté fait maison aussi qui me plaisait beaucoup.
Émilie Tronche travaille déjà à une saison 2 et à un roman graphique tiré de l'univers de Samuel.
Voilà, la série animée Samuel à découvrir donc sur Arte et sur les plateformes de la chaîne.
Merci Clotilde Dumay. 7h13 à Paris, 2h de plus à Mamoudzou, RFI Matin. Bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 9h. Et dans les prochaines minutes, notre invitée internationale Camille Chaise, porte-parole du ministère français de l'Intérieur. Elle revient de Mayotte et on va parler avec elle de l'archipel dévasté par le cyclone Chido et des annonces faites hier par le Premier ministre François Bayrou. Mayotte qui sera aussi à la une de la presse internationale. On en parle dans une heure avec Marion Cazanov. D'abord le sport. Avec Antoine Grenier ce matin. Bonjour Antoine.
Bonjour Andréane.
Pas de trêve des confiseurs pour le football anglais avec hier 3 nouveaux matchs de la 19e journée de Premier League. Mauvaise journée pour les gros clubs.
Chelsea d'abord, surpris 2-0 chez le promu et actuel relégable Ipswich. Deuxième défaite d'affilée en Premier League pour les Blues. De quoi les envoyer au pied du podium. Un sort malgré tout plus enviable que celui de Manchester United. Les Red Devils battus 2-0 par Newcastle et qui s'enfoncent encore un peu plus dans la crise avec cette troisième deuxième défaite de suite. Dans la troisième rencontre du jour, Aston Villa et Brighton se neutralisent de partout.
En Italie, là aussi, le championnat continue pendant les fêtes avec la 18e journée de Serie A.
Et Bologne chute à domicile face à l'Hellas Vérone. Défaite 3-2 pour le club d'Émilie-Romagne qui compte désormais 4 points de retard sur la 6e place de la Juventus. Dans le bas de tableau, Côme domine Lecce 2-0 et grimpe à la 15e place.
Un foot italien secoué par le limogeage de Paolo Fonseca qui n'est plus l'entraîneur de l'AC Milan.
Une aventure qui n'aura duré que quelques mois. Arrivé en juillet dernier, le Portugais a été démis de ses fonctions par le club lombard. Fonseca, immédiatement remplacé par son compatriote Sergio Conceição, l'ancien coach du FC Porto et du FC Nantes, qui doit permettre au Milan AC de remonter au classement. Sofiane Amazian.
L'idylle n'aura duré que 6 mois à peine. Paolo Fonseca, apôtre du beau jeu, a perdu de son aura après son départ de Lille l'été dernier. Déjà en difficulté lorsqu'il avait pris la tête de l'AS Rome en 2019, le technicien de 51 ans voulait passer un cap à Milan, une équipe qui joue le titre et la Ligue des Champions chaque saison. Mais les ennuis se sont accumulés. En quelques semaines, panne de résultats, brouille avec certains cadres, dont le français Théo Hernandez ou le portugais Rafael Leao. Seulement 12 victoires en 24 matchs et une 8e place au classement, inquiétante, à 14 points du leader l'Atalanta Bergame. Le nul concédé ce week-end contre la Roma et l'exclusion de Fonseca pour excès de colère a accéléré l'arrivée d'un nouvel homme fort, Sergio Conceição, 50 ans, parti libre de Porto après 7 années de bons et loyaux services marqués par 11 titres remportés, dont 3 championnats et 2 quarts de finale de Ligue des Champions disputés en 2019 et en 2021. Un sacré CV qui a plu aux dirigeants lombards en besoin de résultats rapide, cela tombe bien. Conceição est réputé très bon meneur d'hommes. La réponse, dans quelques jours, face à la Juventus Turin, Sergio Conceição, pour son premier match, fera face à son fils Francisco, joueur du club turinois.
Et un Milan AC Juventus affiche de la Supercoupe d'Italie qui se jouera vendredi, le 3 janvier.
On termine avec un mot de basket et la nuit de NBA à l'Est, rien de nouveau.
Cleveland qui continue sa promenade de santé avec une victoire sur Golden State, 113-95, malgré les 18 points du Congolais Jonathan Kuminga pour les Warriors.
Antoine Grenier, vous revenez tout à l'heure. Votre rendez-vous aujourd'hui, l'économie sur RFI. On parle gaz russe ce matin. En effet, le contrat qui autorisait son exportation vers l'Europe via l'Ukraine prend fin ce soir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne souhaite pas renouveler cet accord. Bonjour Stéphane de Genès.
Bonjour Andréane.
Je recommence. Bonjour Stéphane Genès.
Bonjour Andréane.
Alors déjà, pour bien comprendre, vous nous rappelez Stéphane que oui, il y a toujours du gaz russe qui arrive en Europe.
Tout à fait. Après pratiquement 3 ans de guerre en Ukraine, le gaz russe a continué de transiter par ce pays pour arriver sur le sol européen malgré plusieurs paquets de sanctions contre Moscou, notamment en ce qui concerne le pétrole. Aucune mesure n'a été prise contre le gaz russe. De fait, il continue d'être consommé par de nombreux pays européens.
Et en quelle quantité ?
Alors c'est difficile à quantifier précisément, mais on a tout de même un ordre de grandeur. Avant le début de l'invasion de l'Ukraine, l'Europe dépendait à hauteur de 40% du gaz russe, dont une très grande partie transitait par l'Ukraine. Aujourd'hui, cet approvisionnement est aux alentours de 15%.
Et donc, à partir de ce soir, 31 décembre, minuit 00, plus un mètre cube de gaz russe ne passera par l'Ukraine.
Exactement, puisqu'aucun accord ne sera trouvé d'ici quelques heures entre Kiev et Moscou. Un contrat de ce type est signé tous les 5 ans. Il était donc en vigueur depuis 2019. Car en fait, il faut s'imaginer, le réseau de transport de gaz, c'est un peu comme des gigantesques routes, sauf qu'elles passent sous terre ou au fond de la mer. En Ukraine, ce sont 22 000 km de gazoducs qui ont été construits pour relier la Russie à toute l'Europe. On comprend donc bien que cette route ukrainienne est essentielle, car directe, pour approvisionner les pays européens. En moyenne, par an, ce sont 15 milliards de mètres cubes de gaz russe qui utilisent ce chemin pour atteindre leur destination.
Et si le robinet est fermé, ça aura des conséquences. On peut l'imaginer pour certains pays.
Par exemple, pour la Slovaquie, c'est le pays qui pourrait être le plus touché par cette mesure. Si l'on regarde sur la carte, le pays est enclavé au milieu de l'Europe centrale. Eh bien, le gaz russe représente à peu près 90% de ses importations. Situation peu ou prou équivalente pour la Moldavie. Elle dépend à 70% du transit ukrainien de gaz russe. Conséquence, on peut imaginer une hausse des prix, mais vraisemblablement sur un court terme, le temps que le marché s'adapte. Cela parce qu'il y a d'autres solutions, soit par bateau, soit via un autre gazoduc, le gazoduc Turkstream, qui part de Russie. Il traverse la mer Noire et il finit sa route en Turquie.
Mais Stéphane, on le disait, en pratiquement 3 ans de guerre, les Européens ont eu le temps de diversifier leurs approvisionnements.
Oui, mais difficile de renoncer à un gaz russe très très bon marché. Bruxelles a tout de même un objectif. 0% de gaz russe consommé en Europe d'ici 2027. Cela grâce à des alternatives avec un gaz par exemple en provenance d'Afrique du Nord ou d'Azerbaïdjan. Pour l'heure, c'est la Norvège et les États-Unis qui ont été les principaux fournisseurs de gaz en Europe l'an passé. Les Américains qui sont même devenus l'année dernière les premiers exportateurs de GNL, de gaz naturel liquéfié au monde. D'où l'inquiétude des Russes jusque-là en position de force sur ce marché puisque c'est bien grâce au GNL américain que les Européens pourraient peut-être trouver leur salut.
Stéphane Geneste pour aujourd'hui l'économie à Paris. Il est 7h20. L'heure de notre grande invitée internationale ce matin, la porte-parole du ministère français de l'Intérieur. Bonjour Camille Chaise.
Bonjour.
Alors vous revenez de Mayotte, vous y étiez la semaine dernière. François Bayrou et toute une délégation de ministres vous ont suivi de près. Ils y étaient hier. Le Premier ministre a dévoilé le plan Mayotte debout, donc un éventail de mesures concrètes sur l'accès à l'électricité, à l'eau, la santé, le logement. On va y revenir un peu plus en détail. Malgré tout, les Mahorais ne sont pas convaincus. Beaucoup regrettent de ne pas avoir été salués. Écoutez, il dénonce une visite éclair d'une journée seulement. On en a marre de mendier notre francité, a dit une mahoraise à notre correspondante. Comment vous réagissez à tout ça, Camille Chaise ? Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Tout d'abord, il faut comprendre la colère. Quand vous vivez un tel cataclysme, vous avez tout un panel d'émotions qui se mettent en place. La sidération, la peur, l'anxiété, la colère. Je crois qu'il faut écouter cette colère et je crois que c'est ce qu'ont fait les membres du gouvernement qui étaient présents. Alors vous dites effectivement que le Premier ministre est déjà parti. Il faut aussi avoir en tête que le ministre chargé des Outre-mer, Manuel Valls, est encore sur place aujourd'hui, demain, et qu'il a prévu, j'ai vu son programme, un emploi du temps très chargé à la rencontre des Mahorais, à la rencontre de tous les acteurs participant à la reconstruction. Je pense qu'on peut pas taxer au gouvernement le fait de ne pas avoir été sur place, était à l'écoute. Je pense que Mayotte n'avait jamais connu un aussi grand nombre de membres du gouvernement en aussi peu de temps. Donc je pense qu'il faut entendre la colère et garder l'esprit lucide pour reconstruire et pour travailler pour la suite.
La députée Lyotte de Mayotte, Estelle Youssoufa, elle regrette un plan peu détaillé construit sans consultation avec les élus.
Je pense que la consultation, elle commence aussi maintenant. Le Premier ministre l'a dit, c'est la base du travail. Je pense qu'il a voulu être extrêmement concret. Et moi qui reviens de Petite Terre et de Grande Terre, où j'étais la semaine dernière, j'ai vu les besoins. Les besoins, ils sont très concrets. L'électricité, les télécommunications, l'eau, vraiment les besoins vitaux. Donc le plan a été construit ainsi. Et bien entendu, il y a quelques briques qu'il faut encore approfondir. Par exemple, le Premier ministre a parlé des lois à venir, a parlé de l'établissement public à venir. Là, tout est en construction. Quel budget, quelle mission pour cet établissement public. Donc on voit qu'il y a encore un champ des possibles et un champ de travail avec les élus extrêmement important.
Mais alors justement, beaucoup attendent des actes maintenant. C'est vrai que samedi qui vient, on sera à 3 semaines après le passage du cyclone Chido. On peut comprendre que toutes ces mesures annoncées hier se font attendre.
Oui, en même temps, les actes, ça commence aujourd'hui. La réouverture de l'aéroport aux vols commerciaux, c'est dès demain. Beaucoup de Mahorais avec qui j'ai pu discuter nous disent on a besoin de la réouverture de cet aéroport, on a besoin de partir quelques temps à La Réunion, s'aérer pour revenir et reconstruire notre île, notre archipel. L'électricité aussi, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à vivre pour les Mahorais. Aujourd'hui, il y a 54% des foyers qui ont été raccordés. Il y a 15 jours, après le passage du cyclone, on avait moins de 10% de l'île qui avait l'électricité. Donc on voit bien que ça avance progressivement. Il faut vraiment avoir en tête que l'archipel est complexe en termes logistiques. Il y a ce qu'on appelle la double insularité. L'aéroport principal est sur Petite Terre et il faut donc tout le fret qui arrive sur cet aéroport, il faut l'acheminer sur Grande Terre, là où il y a le plus de besoins, par un système de barges, de bateaux, dont dimanche soir, après le cyclone, aucune n'était en état d'être utilisée à cause de cet événement climatique. Donc il faut bien voir que tout est complexe en termes logistiques et c'est pour ça que tout prend du temps. Et donc il faut entendre la colère, il faut tout faire pour accélérer les choses. Le Premier ministre, par exemple, a annoncé l'arrivée de 200 électriciens d'EDF, électricité de Mayotte supplémentaires. Ces 200 vont permettre le rétablissement plus rapide que ce qu'il était initialement prévu de l'électricité.
Alors tout est complexe, c'est ce que vous nous dites, Camille Chaise. On peut s'interroger justement sur la faisabilité de certaines mesures parmi les annonces. Il a notamment été question d'interdire et d'empêcher la reconstruction de bidonvilles. On sait qu'une majeure partie de ces bidonvilles ont déjà été reconstruits par les habitants eux-mêmes. C'est donc une mesure impossible à appliquer.
C'est une mesure qui est importante parce qu'elle va être inscrite dans la loi. Donc ça va être désormais la norme attendue. Après, il va falloir effectivement se donner les moyens d'arriver vers cette norme attendue. Je pense que par le passé, il y a eu différents plans comme l'opération Mandbouchou qui a permis le décasage de ces bangas. La réelle difficulté, c'est qu'il faut, et le Premier ministre l'a dit, à chaque décasage, à chaque destruction de bidonville, avoir un double traitement qui est mis en place. D'un côté, pour les personnes légales qui ont le droit d'être sur l'archipel, trouver une solution de logement digne. Donc ça veut dire construire rapidement des logements, trouver des solutions de logement adaptées pour ces personnes. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire français, permettre les éloignements, notamment vers les Comores, vers l'Afrique des Grands Lacs, vers Madagascar. C'est ce qu'on a déjà fait par le passé, mais l'inscription dans la loi va en faire la norme et donc devrait amplifier ce mouvement. Il faut bien voir que Mayotte, c'est petit. Il y a un problème de ressources naturelles. C'est trop petit par rapport à un trop grand nombre de personnes et donc il faut trouver pour permettre de vivre dignement aux Maorés et à ceux qui ont le droit d'être sur notre territoire, trouver des solutions.
Alors, vous parlez de l'opération Mandbouchou qui a été lancée donc en 2023. Cette opération, l'objectif de destruction de bidonvilles inhérent à cette opération n'a pas pu être respecté justement parce qu'on ne savait pas où reloger toutes ces familles. Alors, comment on va faire ici? Pourquoi est-ce qu'on réussirait maintenant ce qu'on n'a pas réussi à l'époque?
L'opération Mandbouchou et les différentes phases sont pas totalement négatives. Moi qui étais sur place la semaine dernière, j'ai par exemple vu une opération de décasage que nous avions menée et qui a été menée à son terme. Donc on avait récupéré du foncier, récupéré de l'espace et aujourd'hui il y a un lycée professionnel qui est en cours de construction. Donc on voit bien que les opérations Mandbouchou ont permis de récupérer un certain nombre de parcelles. Mais tout ça c'est grignoté au fur et à mesure, récupéré au fur et à mesure de l'espace pour en faire quelque chose au service du public, au service des services publics pour construire des écoles, des services de proximité. C'est aussi comme ça que les Maorés vivront mieux parce qu'on réimplante des services publics. Donc il va falloir continuer mais sûrement amplifier et peut-être d'autres solutions vont être trouvées en lien avec les élus.
Hier, il a aussi été question d'immigration dans les mots de François Bayrou. Le Premier ministre a insisté sur des mesures prévoyant le respect des frontières, le renforcement des moyens accordés à la gendarmerie, un durcissement avait aussi été évoqué par Emmanuel Macron lors de sa visite il y a une dizaine de jours. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, également, lui, 72 heures seulement après le passage du cyclone. Il faut changer les règles, avait dit Bruno Retailleau, c'est-à-dire ?
Alors il y a les règles et je pense qu'il faisait allusion au droit du sol, mais il y a aussi les outils. Si on compare avec d'autres départements d'outre-mer, comme par exemple aux Antilles, l'ensemble, 100% des côtes antillaises sont sous protection de radar, ce qui permet de voir, de capter des intrusions maritimes sur le sol français. C'est pas le cas à Mayotte. Alors il y avait quelques radars qui ont été totalement détruits. Il y a les armées qui ont depuis réimplanté des radars, mais on pourrait imaginer aussi des moyens techniques beaucoup plus performants qui aideront le travail des brigades nautiques, de la gendarmerie maritime. Réussir à intercepter ce flux, c'est déjà une première étape. Et puis après, il y a le travail d'éloignement qui se fait en grande coopération avec l'État des Comores. Et puis effectivement, peut-être des réflexions législatives à plus long terme, même si il faut savoir déjà qu'il y a un droit spécifique à Mayotte et qu'il y a déjà une adaptation du droit du sol à Mayotte qui existe.
Alors, dernière question très rapidement, Camille Chaise, on n'a plus beaucoup de temps. Hier, François Bayrou a encore assuré que les craintes d'un bilan qui se chiffre en milliers sont infondées. Comment il peut être aussi sûr de lui sur ce point?
Il faut bien voir qu'à Mayotte, ça se passe comme dans tous les autres départements français. La comptabilisation des décès se fait par déclaration en mairie, au centre hospitalier. Mmh. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons 39 décès comptabilisés. Après, le travail de recherche continue, le travail pour connaître tous les disparus, leurs identités en lien avec les associations et les associations de santé, la Croix-Rouge par exemple. C'est seulement à l'heure du bilan qu'on pourra vraiment savoir à quel point ce département a pu être touché.
Merci Camille Chaise.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Aujourd'hui, reportage au SAMU Social de Paris, créé il y a tout juste 30 ans pour lutter contre la grande exclusion. Demain, l'éducation thérapeutique du patient. Pourquoi est-elle particulièrement recommandée en cas de diagnostic de maladie chronique ?
Priorité santé.
Avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
L'ordinateur pour tous, dans les écoles et les lycées, c'est encore un objectif difficile à atteindre pour beaucoup de pays. Mais la Suède, qui avait tout misé sur l'informatique, fait marche arrière. Livres, cahiers et stylos font leur retour sur les pupitres, en cause une baisse du niveau des élèves.
Accent d'Europe, tout à l'heure à partir de 11h35 TU, sur RFI.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge App Afrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez dès aujourd'hui et jusqu'au 26 janvier 2025 sur appafrique.rfi.fr.